Bonjour à tous. Nous allons reprendre notre parcours qui a été interrompu pendant une semaine. Et comme prévu aujourd'hui, je vais commencer la troisième et dernière partie du cours. Cette partie qui s'intitule « La foi en Jésus-Christ aujourd'hui ». Je rappelle d'un mot comment ça se situe dans l'ensemble de notre itinéraire. Nous avons commencé dans la première partie par identifier les principales étapes de la réflexion sur le Christ depuis un siècle, en Europe et en dehors de l'Europe. Puis, à partir de là, dans la deuxième partie du cours, nous avons interrogé l'histoire. Nous avons découvert comment s'est élaboré progressivement, spécialement dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, la doctrine au sujet de Jésus-Christ, vrai Fils de Dieu et vraiment homme, de nature en une personne, selon la fameuse définition du Concile de Chalcédoine. Eh bien, avec cette troisième et dernière partie du cours, nous allons essayer d'avancer dans une réflexion sur l'identité du Christ, tel que nous pouvons essayer d'en rendre compte aujourd'hui. Bien sûr, en nous laissant informer par ce que nous avons vu précédemment, en tenant compte de ce que nous avons vu précédemment, mais en essayant de reprendre à nouveau frais une réflexion sur Jésus-Christ, chemin vers le Père. La démarche dans laquelle je vous invite à entrer à partir d'aujourd'hui, démarche qui se poursuivra jusqu'à la fin du cours, c'est une démarche qui ne consiste pas à rendre compte de l'histoire de Jésus de Nazareth. L'histoire de Jésus de Nazareth, nous en avons parlé dans toute première séance. On essayait de voir ce qu'il était possible de dire honnêtement du point de vue historique sur Jésus de Nazareth. La démarche dans laquelle je vous invite à entrer à partir d'aujourd'hui, c'est une démarche qui voudrait essayer de rendre compte de la foi en Jésus de Nazareth. Cet homme qui a vécu en notre histoire, cet homme Jésus de Nazareth, il y a 2000 ans en Palestine, eh bien, la communauté chrétienne dit de lui qu'il est le Fils de Dieu. Alors comment rendre compte de cette foi en Jésus de Nazareth comme Fils de Dieu? Comment en rendre compte aujourd'hui même? La question qui se pose, c'est évidemment celle du point de départ. Par où commencer? De quel point partir? Eh bien, contrairement à ce qui a souvent eu cours à partir du XIIe, XIIIe siècle surtout, et jusqu'à l'époque moderne comprise, où on partait avant tout d'une considération du Verbe de Dieu dans l'éternité, et à partir de là, on rendait compte de l'incarnation, le Verbe s'est fait chair, je voudrais plutôt partir de la considération de Jésus tel qu'il s'est révélé dans l'histoire des hommes. D'une part, c'est tout à fait dans la ligne du renouveau christologique qui a marqué le XXe siècle. J'avais expliqué ce tournant des christologies dites d'en haut aux christologies d'en bas. Et d'autre part, c'est conforme tout simplement à la genèse de la christologie aux origines. Puisque, aux origines, on n'a pas commencé par l'évangile de Jean. L'évangile de Jean n'est venu qu'après les autres évangiles. Aux origines, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la rencontre de Jésus sur les routes de Palestine. Un homme qu'on voyait cheminer le long du lac de Tibériade. Et c'est de cet homme que, peu à peu, on a été conduit à dire « Il est le Messie ». Il est le Fils de Dieu. Et donc, je voudrais, suivant ce qui nous est ainsi suggéré par les origines mêmes, par le Nouveau Testament dans ses débuts, je voudrais partir de la considération de la révélation même de Jésus dans l'histoire. C'est d'ailleurs à cela que nous invite le Concile Vatican II lui-même, dans un texte tout à fait important qui se trouve presque au début de la constitution Dei Verbum. Je vous ai donné ce texte sur une feuille à part, où il est dit ceci. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Dans cette révélation, c'est surtout en fait la phrase suivante qui m'intéresse, hein, dans cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son immense amour, ainsi qu'à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Pareille économie de la révélation comprend des événements et des paroles intimement unis entre eux, de sorte que les œuvres réalisées par Dieu dans l'histoire du salut attestent et corroborent et la doctrine et le sens indiqué par les paroles, tandis que les paroles publient les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. Alors, c'est un texte très dense. Ce que j'en retiens simplement, c'est que nous avons, avec ce texte de Vatican II, un point de départ qui est pris dans l'événement même de la révélation. L'événement de la révélation. Le texte de Vatican II ne part pas d'une considération métaphysique, abstraite, sur le Verbe de Dieu dans l'éternité, mais le texte de Dei Verbum privilégie le point de vue de la manière même dont Dieu se révèle dans l'histoire, en Jésus-Christ, par des paroles et par des actes. Paroles et actes, les actes, les œuvres qui confirment les paroles. Donc je prendrai comme point de départ, dans cette troisième partie du cours, je prendrai comme point de départ la manière même dont Jésus se fait connaître en son temps, en Palestine, il y a 2000 ans. Et plus précisément, je partirai des années du ministère public de Jésus. À peine 3 années, entre l'année 30 et l'année, pardon, entre l'année 27 et l'année 30 de l'ère chrétienne. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, en fait, Jésus-Christ est né, semble-t-il, en 4 avant Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes tributaires d'une malheureuse erreur qui a été faite par un géographe, historien de l'Antiquité, il s'appelait Denis le Petit. Il s'est trompé dans ses calculs. En fait, on sait que Jésus est né en 3 ou 4 avant Jésus-Christ. Il est mort en l'année 30. On est absolument convaincu de la date historique de sa mort, le 7 avril de l'année 30. Il avait donc autour de 33 ans, ce qui est conforme à la tradition. Hein. Donc simplement, il y a une erreur chronologique. Donc, je partirai ici, en fait, de la révélation de Jésus durant les 3 années, ou à peine 3 années, de son ministère public. Je ne dirai rien, autrement dit, je ne dirai rien aujourd'hui de ce qui précède, de l'enfance de Jésus. On aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais les premiers qui ont au fond, livré un témoignage au sujet de Jésus, ce sont d'abord ceux qui l'ont rencontré du côté de Capharnaüm, aux alentours du lac de Tibériade. Ce qui était vraiment déterminant au point de départ, c'est la manière dont Jésus s'est fait connaître, publiquement, en quelque sorte, en Palestine, notamment dans la région des alentours de Tibériade, Capharnaüm, et puis bien sûr aussi à Jérusalem. Alors, remarque très importante, c'est que la christologie du Nouveau Testament porte la marque de la confession de foi post-pascale, mais que cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu, dès avant Pâques, des voies d'accès à l'identité de Jésus. Ça, c'est une remarque préliminaire tout à fait fondamentale. Je l'ai d'ailleurs inscrite en toutes lettres. Ce sont les premières lignes du plan que vous avez sous les yeux. Quand je dis que je vais partir de la révélation de Jésus durant son ministère public, dans les années 27 ou 28 à 30, je n'ignore pas que la manière dont la vie de Jésus nous est rapportée tient compte de la foi des apôtres à partir de Pâques. On en a des tas d'indices. Par exemple, lorsque Jésus nourrit la foule avec le pain, les poissons, on sent bien que les apôtres ou les évangélistes ne font pas que rapporter un événement mémorable qui s'est passé durant les années du ministère public de Jésus, mais les évangélistes projettent en quelque sorte rétrospectivement sur cet épisode, ben, ils projettent quoi? Ils projettent évidemment la célébration de l'Eucharistie. Et donc la multiplication des pains devient après coup une expression de la célébration de l'Eucharistie. On pourrait prendre bien d'autres exemples. Lorsque Jésus dit à tel malade qu'il remet debout, soit éveillé ou soit debout, on sent bien que les évangélistes projettent sur cet épisode d'une guérison le sens de la résurrection, puisque le verbe lever, éveiller, ce sont des verbes qui sont utilisés pour parler aussi de la résurrection. Donc je n'ignore pas que dans la manière dont les évangélistes nous rapportent le ministère public de Jésus avant Pâques, les évangélistes projettent plus ou moins leur foi post-pascale. Mais ça ne veut pas dire pour autant, c'est le second versant de ma proposition, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas eu dès avant Pâques des voies d'accès plus ou moins profondes à l'identité de Jésus. Autrement dit, il ne faudrait pas raisonner de la manière suivante, c'est seulement à partir de Pâques que des hommes ou des femmes pouvaient reconnaître Jésus comme quelqu'un d'exceptionnel, voire même le reconnaître comme Messie et Fils de Dieu. On doit pouvoir se convaincre que déjà avant Pâques, dans les années même du ministère public de Jésus, il était possible à des hommes et à des femmes de reconnaître que Jésus était, dans son humanité même, quelqu'un d'incomparable. Voilà. Donc vous voyez le projet qui est le mien dans cette séance aujourd'hui, sur le ministère public de Jésus. C'est d'essayer de rendre compte de la façon dont on a pu effectivement, dès avant Pâques, reconnaître en Jésus quelqu'un qui, bien sûr, était vraiment homme et qui, en même temps, dans son humanité, était incomparable à tout autre homme. Je ne dis pas encore, il était Seigneur. Je ne veux pas aller trop loin, je ne veux pas aller trop vite. Mais déjà, on pouvait s'ouvrir à cette révélation. Ceci a conduit des théologiens de notre époque à avancer une expression qui est technique, si vous voulez, mais qui est très importante, c'est l'expression de christologie indirecte ou encore de christologie implicite. C'est une expression qui est par exemple employée, entre autres, par le théologien allemand Walter Kasper dans son livre « Jésus le Christ ». Je lis ces quelques lignes. Toute la prédication de Jésus sur la venue du royaume de Dieu, ainsi que sa manifestation et son action, contiennent une christologie implicite ou indirecte qui fut formulée après Pâques dans la confession explicite et directe. Voilà. Dès avant Pâques, il était possible d'accéder, au moins indirectement, à une certaine reconnaissance de Jésus comme Christ. Voilà. Alors cela, bien sûr, il nous faut essayer de le vérifier. Et c'est l'objet de ce chapitre que j'intitule « Un prophète puissant en action et en parole ». C'est une citation de Luc 24, verset 19. Eh bien, je reprends cette citation, j'en fais le titre même de ce chapitre. Il va s'agir de vérifier comment, en effet, dès avant Pâques, dans ces années 28, 29, 30, Jésus a été perçu comme un prophète puissant en action et en parole, et comment, à travers cela même, certains ont pu accéder à une certaine compréhension de son identité profonde. Je ne dis pas à une connaissance parfaite. La connaissance parfaite de l'identité de Jésus, elle ne viendra qu'avec Pâques, lorsque les apôtres pourront dire « Il est Seigneur », au sens le plus fort du mot. Mais il s'agit de voir comment, dès avant Pâques, cette révélation de Jésus comme Christ et Seigneur advient au moins implicitement, parfois explicitement, mais souvent aussi de manière implicite ou indirecte. Alors cela, nous allons le vérifier à travers plusieurs étapes. Une étape sur la prédication du règne de Dieu, une deuxième étape sur les paraboles, une troisième étape sur les différentes expressions de l'autorité de Jésus, et une quatrième étape où on essaiera d'aller plus loin encore et de se demander quelle conscience Jésus pouvait avoir de sa propre identité. J'entends bien avant Pâques. Hein. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, nous sommes dans la période pré-pascale. Alors, première étape, la prédication du règne de Dieu. Jésus était très lié à Jean le Baptiste. C'est quelque chose qui est tout à fait reconnu par les historiens aujourd'hui, historiens et exégètes. Jésus était très lié à Jean le Baptiste et Jésus, de par son lien à Jean le Baptiste, acceptait pleinement le message eschatologique, eschatologique de Jean, qui appelait l'ensemble d'Israël à se repentir en vue du jugement de Dieu. Rien n'indique que Jésus ait abandonné ce message fondamental du Baptiste. Et cependant, vers l'année 28, Jésus prend distance par rapport au Baptiste, il prend distance par rapport au cercle de Jean-Baptiste, et il commence son ministère propre, son ministère original, marqué notamment par une prédication qui fondamentalement se résume en quelques mots. On a ça par exemple en Marc chapitre 1 verset 15. L'essentiel de cette prédication, c'est « Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » On voit bien la différence par rapport au message de Jean-Baptiste. Jésus ne fait pas qu'appeler au repentir, mais il annonce la proximité du règne de Dieu. Il annonce que les temps sont accomplis. Et un peu plus loin, dans le même évangile de Marc, Jésus annonce que le mystère du royaume a déjà été donné aux disciples. En Marc, chapitre 4, verset 11, il dit « À vous, les disciples, le mystère du royaume a été donné, il est déjà donné. » Deux précisions s'imposent ici. La première précision, c'est que ce qui ressort des évangiles, c'est que la venue du royaume est liée à la personne même de Jésus. Voilà. La venue du royaume, la proximité du règne de Dieu est liée à la personne même de Jésus. Parce que, au fond, si Jésus ne faisait qu'annoncer le royaume de Dieu, on ne verrait pas encore ce qui le distingue d'un certain nombre de prédicateurs ou de prophètes. Mais il ressort des évangiles que l'annonce du règne de Dieu et l'annonce de la proximité de ce règne, surtout, est liée à sa propre personne. C'est ce qui conduira un père de l'Église du IIIe siècle, Origène, à dire « Jésus est le royaume en personne ». Jésus est le royaume en personne. Il apparaît comme lié intimement au royaume, ou plutôt la proximité du royaume est liée intimement à sa propre personne. Ça, c'est la première précision. Walter Casper le dit en ces termes, « Jésus est la réalisation concrète et la forme personnelle de la venue du royaume de Dieu. » là, autrement dit, là où paraît Jésus, là, le royaume a déjà commencé. Comme ça qu'on peut interpréter, si vous voulez, ces paroles de l'Évangile. La seconde précision qu'il faut apporter, c'est que la prédication de Jésus manifeste une tension entre quelque chose qui est déjà réalisé et quelque chose qui est à venir. Une tension entre une première réalisation du royaume et une réalisation à venir. D'un côté, le royaume est déjà là, lié à la présence personnelle de Jésus, et il est révélé déjà à ses disciples, mais en même temps, ce royaume se présente encore sous une forme obscure, sous une forme cachée, comme cette graine de senvé ou cette graine de moutarde qui est déjà semée, mais qui reste, dans un premier temps, la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre. On pourrait d'ailleurs étendre cela à d'autres paraboles. On pourrait dire que la parabole, c'est ce genre littéraire qui dit à la fois la présence du mystère, la présence du royaume, et en même temps son obscurité. Voilà. Aux disciples, le mystère du royaume a déjà été révélé, mais à ceux qui sont au dehors, tout arrive en parabole. C'est Jésus qui le dit au chapitre 4 de l'évangile de Marc. Alors, on peut se demander, bien sûr, en quoi consiste cette prédication du royaume, ou cette prédication du règne de Dieu. On peut traduire de deux manières, le terme grec, basileia, royaume ou règne de Dieu. Traditionnellement, on préférait plutôt traduire par royaume. Aujourd'hui, on préfère plutôt traduire par règne de Dieu, parce que c'est peut-être plus dynamique que royaume. Royaume, ça fait penser davantage à un état, une société constituée. Règne de Dieu, c'était plus dynamique. Bon, en même temps, il y a un livre célèbre d'Emmanuel Carrère qui vient de paraître, qui s'appelle Le Royaume. Donc, vous voyez, on continue à fluctuer entre les deux traductions. Alors, en quoi consiste ce règne de Dieu, ce royaume pour Jésus? Il faut se rappeler que, à son époque, le règne de Dieu signifiait, pour les Juifs de son temps, le meilleur de ce qu'on pouvait attendre pour Israël. On dirait que c'est une définition encore vague, parce que qu'est-ce que c'est justement le meilleur de ce qu'on puisse attendre, on pourrait dire une traduction possible du royaume, ce serait le paradis. Quel est le paradis qu'on attend? Alors, en fait, il y avait des interprétations différentes du royaume parmi les Juifs à l'époque de Jésus. Certains avaient une certaine compréhension du royaume, d'autres en avaient une autre. Par exemple, il y a des gens, des pharisiens notamment, qui pensaient que le royaume de Dieu, ça serait la réalisation complète de la Torah, de la loi. Pour d'autres, le royaume de Dieu, ça serait une société politique, un régime politique qui serait marqué notamment par la libération de la Palestine, qui serait plus sous l'emprise des Romains. À l'époque de Jésus, la Palestine était occupée par les Romains. Donc certains pensaient que le royaume de Dieu, ça serait la libération complète de la Palestine. Donc c'était une interprétation politique du royaume de Dieu. Il y avait encore d'autres Juifs pour qui le règne de Dieu, ben, ça serait, si vous voulez, dans une perspective apocalyptique, la venue du nouveau ciel et de la terre nouvelle. Voilà. Il y avait diverses compréhensions du royaume. Or, Jésus, précisément, prend une option sur le sens du royaume de Dieu. Nous le savons, par exemple, par sa prédication à la synagogue de Nazareth, d'après Luc, au chapitre 4. Jésus prend une option. Pour lui, le règne de Dieu, ça doit être l'instauration de la justice de Dieu dans le monde, l'instauration de la justice de Dieu. Vous vous rappelez la citation d'Isaïe, hein, à la synagogue de Nazareth. Jésus tombe sur le passage d'Isaïe où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'envoyait porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Et Jésus commente, aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. C'est la plus brève homélie qui ait jamais été faite sur ces versets d'Isaïe. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Donc, vous voyez, la compréhension que Jésus a du règne de Dieu, eh bien, c'est celle-ci. Le règne de Dieu, c'est au fond, l'intervention de Dieu qui vient instaurer sa justice. Justice étant compris au sens de délivrance des captifs, secours des malades, secours des pauvres, tout cela coïncidant avec l'accomplissement des temps. Les temps sont accomplis. Et il y a bien sûr un certain nombre de passages de l'Évangile qui développent les différentes harmoniques de cette prédication du royaume de Dieu, en particulier, outre le texte de Luc 4 auquel je viens de faire allusion, tout le sermon sur la montagne, qui était compris par toute la tradition, à juste titre, comme la charte du royaume de Dieu. Avec, bien sûr, au centre, les textes que nous connaissons sur la prière, le véritable sens du jeûne et de l'aumône, l'exigence de la relation de charité vis-à-vis du prochain, etc. Voilà donc une première approche. Jésus se manifeste dans les évangiles comme celui qui annonce l'accomplissement des temps et la venue du règne de Dieu au sens que je viens de préciser, enfin, la lumière en particulier la lumière donc de l'épisode de la prédication de Jésus à la synagogue de Nazareth en Luc 4. Alors pour essayer d'approfondir cette première approche, je voudrais en quelque sorte braquer le projecteur sur les paraboles de Jésus. Bon, les paraboles de Jésus, c'est simplement un aspect de l'enseignement de Jésus. Dans le sermon sur la montagne, vous n'avez pratiquement pas de paraboles, enfin, sauf tout à fait à la fin, avec l'image de la maison bâtie sur le roc. Mais pour l'essentiel, c'est un sermon qui est d'un autre genre littéraire. Mais il me semble intéressant de retenir de façon privilégiée le langage sous forme de paraboles, parce que ce langage me semble hautement significatif, précisément, de la manière dont l'identité de Jésus pouvait être comprise dès avant Pâques. Si vous voulez, ce que j'ai dit jusqu'ici, sur la prédication du règne de Dieu par Jésus, nous montre déjà comment des contemporains de Jésus pouvaient percevoir en lui une identité tout à fait remarquable, tout à fait singulière. Quel est cet homme pour pouvoir dire ainsi « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est arrivé ». C'est déjà une déclaration considérable. Mais l'attention portée au langage des paraboles va nous permettre de préciser encore les choses, de voir comment on peut parler en effet, selon le mot de Casper et de quelques autres théologiens, d'une christologie implicite ou d'une christologie indirecte durant ces années du ministère public. Un théologien contemporain, Edward Skidbeck, qui a écrit « Jésus est une parabole et il raconte des paraboles. Seules des paraboles peuvent interpréter une parabole. » Formule très dense, mais nous allons comprendre peu à peu, au fond, sa véritable portée. Si vous voulez, l'enjeu de ce développement que je vais consacrer aux paraboles, c'est de nous dire comment les paraboles elles-mêmes sont révélatrices de l'identité même de Jésus. Comment les paraboles racontées par Jésus nous disent quelque chose de Jésus comme étant lui-même parabole, au sens où, à travers lui, se manifeste, eh bien, peut-être sous forme obscure encore, mais néanmoins, à travers lui, se manifeste quelqu'un qui n'est pas simplement homme, mais qui est dans son humanité même le Fils de Dieu. En quoi le langage en parabole révèle-t-il quelque chose de l'identité profonde de Jésus? Cette question est d'autant plus pertinente que le langage des paraboles, on s'en aperçoit de plus en plus, est vraiment une grande originalité dans les évangiles. Il y a beaucoup d'études qui ont porté, qui portent aujourd'hui encore, sur les écrits du judaïsme dans les décennies précédant la vie de Jésus, ou à l'époque même de Jésus. Or, on constate que le genre des paraboles utilisées par Jésus est quelque chose de très, très original. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas parfois des paraboles dans tel ou tel écrit du judaïsme contemporain, mais les paraboles prennent dans les évangiles une importance qu'elles n'ont nulle part ailleurs dans la littérature du judaïsme ancien. Et donc, ça vaut la peine de s'interroger sur ce genre des paraboles et de se demander en quoi les paraboles peuvent, comme telles, nous révéler implicitement ou indirectement quelque chose de l'identité de Jésus comme Christ. Alors, en quoi, justement ? Eh bien, nous constatons d'abord que, à un premier niveau, la parabole fait appel à des expériences tout à fait communes de l'humanité. À un premier niveau, et on peut toujours en rester à ce premier niveau, d'ailleurs c'est ce qu'on fait le plus souvent, à un premier niveau, la parabole, les paraboles de Jésus, ont sens en fonction d'un certain nombre d'expériences communes, ordinaires, de l'humanité. Je veux dire par là que les images auxquelles Jésus fait appel dans ses paraboles ont, pour les hommes et les femmes de son époque, une signification qui est pleinement accessible. Une signification telle que normalement, tout être humain de bon sens doit pouvoir y adhérer. Bon, si quelqu'un vous demande du pain à minuit, et s'il fait du tapage à minuit, à 1h du matin, à 2h du matin, jusqu'à ce qu'il ait obtenu satisfaction, si vous voulez dormir un peu, vous avez quand même intérêt à lui donner du pain. Même si ça vous dérange, il faut se lever. Bon, ensuite, vous vous recouchez, c'est pas grave. Vous dormirez mieux ensuite. Bon. Vous trouvez dans un champ de blé de l'ivraie, des mauvaises herbes. Mais vous vous rendez compte que si vous arrachez l'ivraie, le blé risque d'en subir quelques dommages. Alors, vous n'allez évidemment pas arracher l'ivraie. Question de bon sens. C'est parlant pour les gens qui connaissent un peu les choses de la terre. Vous êtes brouillé avec un adversaire. Alors, est-ce que vous allez tout de suite vous engager dans les soucis, les tracas, les frais d'un procès qui risque de s'envenimer de plus en plus ? C'est quand même plus intelligent d'essayer d'abord de se réconcilier avec son adversaire. Question de bon sens. Vous voulez construire une maison ? Regardez d'abord si vous avez assez d'argent pour terminer la construction. Vous avez 100 brebis si vous êtes berger dans la montagne. Vous avez 100 brebis, vous en perdez une. Alors, si vous êtes, ça va déjà plus loin, si vous êtes un vrai berger qui a conscience de sa responsabilité, vous n'allez pas renoncer à celle qui s'est égarée. Vous allez essayer de la retrouver. Et puis plus encore, si vous êtes un père, vous avez un fils qui vous a quitté, vous savez que tous les torts sont de son côté, mais s'il revient vers vous, vous allez le chasser ? Un père avec deux fils. Ouais. Les paraboles, un premier niveau, c'est ça. Ce sont ces histoires qui font appel à des images ou à des expériences qui doivent être accessibles à tout être humain de bonne volonté. Et à un niveau parfois très élémentaire. Autrement dit, Jésus, par la forme même de son langage sous forme de parabole, Jésus fait appel au bon sens, à la sagesse humaine, à l'intelligence humaine. Il fait appel au cœur de l'homme. Et donc, à travers cela, Jésus présuppose qu'il existe, quelque part enfoui au fond de tout être humain, cette sagesse, ce bon sens, cette intelligence, ce cœur. Font cette expérience d'humanité qui est déjà un don de Dieu et qui permet déjà de donner sens aux paraboles. C'est le premier niveau. Or, si l'on dépasse ce premier niveau, ce qu'on n'est jamais obligé de faire, on peut toujours en rester au premier niveau. Et la foule, en général, justement, en reste au premier niveau. Mais si on dépasse ce premier niveau, alors on entend à travers les paraboles quelque chose de plus ou quelque chose d'autre. À savoir que la parabole dit quelque chose de Dieu même. Voilà. La parabole dit quelque chose de la manière d'être de Dieu à l'égard de l'humanité. Un exemple tout simple, la semence, hein, la semence jetée en terre et qui porte naturellement du fruit, si du moins on n'y met pas obstacle, hein, parce qu'on peut toujours avoir les pierres, les ronces, etc. Mais normalement, naturellement, si on n'y met pas d'obstacle, la semence porte naturellement du fruit. Eh bien, cette semence qui porte naturellement du fruit, normalement, cela parle, à un second niveau, hein, pour qui veut bien entendre, cela parle de Dieu même et de sa parole qui, normalement, si on n'y met pas d'obstacle, porte du fruit. Ou encore, ce père qui court à la rencontre de son fils qui s'était égaré et qui revient vers lui, eh bien ce père, Dieu est comme ça, tout simplement. C'est ça que veut dire la parabole, finalement. Dieu est comme ce père. Donc, pour résumer les deux versants, les deux niveaux que je viens de distinguer, on pourrait dire ceci. D'un côté, la parabole signifie que Jésus ne parle pas aux hommes d'en haut, de l'extérieur, comme en surplomb. Voilà. Comme si Jésus ne parle pas aux hommes comme si la révélation était quelque chose de radicalement étranger à l'expérience ordinaire des hommes. Non, Jésus prend appui sur la vérité que les humains ont déjà en eux, au fond d'eux-mêmes. Donc, je vais dire ça avec un mot un petit peu compliqué, mais qui n'a plus de secret pour vous depuis que nous aurons parlé du concile de Chalcédoine. On va dire ça à ce premier niveau. La parabole implique que la révélation de Dieu est, de quelque manière, de même substance que l'expérience commune de l'humanité, consubstantielle à l'expérience commune de l'humanité. Mais d'un autre côté, second niveau, la parabole n'est pas réductible à cette expérience commune de l'humanité, puisque justement elle est porteuse d'un sens qui n'est pas nécessairement perçu par tous, tant s'en faut. La parabole dit quelque chose de la manière d'être de Dieu même, pour ceux du moins qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Autrement dit, à travers la parabole, l'expérience ordinaire, commune de l'humanité, se trouve appelée à une sorte d'élévation, de transfiguration. À travers la parabole se dit quelque chose qui ne parle pas seulement de l'être humain, mais quelque chose qui parle de Dieu, quelque chose qui n'est autre que la substance même du divin. Alors, s'il en est ainsi, si les paraboles racontées par Jésus sont en mesure de dire à la fois ce qui est de même substance que l'humain et ce qui est de même substance que le divin, c'est donc que celui qui raconte les paraboles, cet homme, Jésus de Nazareth, est lui-même dans sa propre personne le même et le tout autre. Il est le même que nous, tellement homme qu'il parle le langage des paraboles, que tout homme de bon sens est en mesure de comprendre à un premier niveau, le même donc que nous, mais l'autre, le tout autre, c'est-à-dire celui qui est en mesure de révéler à travers les paraboles la manière d'être de Dieu lui-même. Et il peut le faire uniquement parce qu'il est lui-même l'image parfaite du Dieu invisible. Il est lui-même, dans sa propre personne, l'image visible du Dieu invisible. Le même et le tout autre. Celui qui raconte les paraboles du royaume est le même et le tout autre. Il est l'un et l'autre. Il est de l'homme et il est de Dieu. Il est l'un et l'autre, sans confusion ni séparation. Rappelons-nous, Calcédoine, hein, c'est moi, vous voyez, je relis, en me laissant informer par la tradition de l'Église, hein, qui me donne des clés pour justement entrer dans une intelligence plus profonde de ce qui est ainsi révélé sur Jésus. Jésus se révèle ainsi comme le même que l'homme et autre que l'homme. Il se révèle le même et l'autre dans l'unité de son être indivise. Et précisément, cette unité se dit dans le registre de la parabole, puisque précisément, la parabole, de par son genre littéraire lui-même, la parabole, bien qu'étant porteuse d'une double signification, elle est, dans sa forme, un seul et même langage. C'est une seule parabole. Alors c'est ce qui autorise à dire, à la suite de Edward Skidbeck, que les paraboles nous parlent de Jésus comme étant lui-même la parabole parfaite de Dieu. Si vous voulez, une autre façon de dire cela, c'est de dire que dans la visibilité même de l'homme Jésus, se laisse rencontrer le Dieu invisible. Dieu se laisse rencontrer en Jésus et réciproquement, comme le dit l'évangile de Jean, s'il est vrai que Dieu, nul ne l'a jamais vu, le Fils, lui, l'a fait connaître. Vous voyez comment les paraboles, c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que par leur genre littéraire lui-même, les paraboles sont parfaitement cohérente avec cette forme de la révélation de Dieu en Jésus. Parce que justement, la parabole contient en elle-même cette alliance d'une part de manifeste et d'une part d'obscur, d'une part de visible et d'une part d'invisible. Alors, je me suis arrêté un peu longuement sur le cas des paraboles, mais c'est un cas extrêmement intéressant qui aide à comprendre plus précisément en quoi, en effet, il y a bien, dès avant Pâques, durant ces années du ministère public de Jésus, une christologie indirecte, une christologie implicite. Alors, il y a une autre approche qui peut être développée, toujours dans la même perspective, pour essayer de se demander comment la révélation de Jésus pré-pascal est déjà indirectement une révélation de sa filiation divine. Une autre approche, c'est la troisième, si vous voulez, que je voudrais au moins commencer ici, c'est de se rendre attentif aux signes de l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus. Autorité, c'est le mot que j'emploie, à la suite de nos traductions françaises courantes, c'est le mot que j'emploie pour traduire le mot grec « exousia ». Autorité, c'est le langage habituellement retenu pour la traduction de ce terme grec. C'est un mot qui peut être un petit peu trompeur, si vous voulez, parce que bon, « autorité » risque malheureusement en français parfois de faire penser à « autoritarisme », à tort, parce que « autorité » en fait vient du latin « auctoritas », lui-même forgé sur le verbe latin « augeo », qui veut dire « augmenter ». L'autorité bien comprise n'a rien à voir avec l'autoritarisme. L'autoritarisme est une dérive, une déviation par rapport à l'exercice normal de l'autorité. L'autorité, c'est ce qui aide à croître. Si elle est bien exercée, bien vécue, c'est ce qui favorise la croissance de ceux et celles par rapport à lesquels on exerce une autorité. le mot grec qui est employé, ex ousia, comprend le préfixe ex et le mot ousia, qui veut dire essence, nature. Hein. Ex ousia. On a l'impression que c'est quelque chose qui sort du Christ, l'autorité du Christ, l'ex ousia du Christ. Hein. C'est, au fond, ce qui sort de lui, on dit souvent, ça arrive, on entend cette expression en français, hein, quelqu'un qui est une sorte d'autorité naturelle. Ce n'est pas quelqu'un qui est autoritaire, mais c'est simplement sa manière d'être, sa manière de se comporter, sa manière d'agir, etc., fait que, spontanément, on est porté à lui faire confiance. Voilà, l'autorité de Jésus, hein, exousia. Alors, cette autorité, cette exousia de Jésus, se manifeste de différentes manières, d'après les évangiles, et c'est passionnant de voir comment, à travers ces différentes expressions de l'autorité de Jésus, se dit quelque chose de son identité, telle qu'elle pouvait être déjà comprise jusqu'à un certain point avant Pâques. Alors je voudrais décliner cela en plusieurs temps. Premier temps, il y a d'abord l'autorité de Jésus telle qu'elle se manifeste par rapport à l'autorité de Moïse. L'autorité de Jésus par rapport à l'autorité de Moïse. On voit cela surtout dans le sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu. Lorsque Jésus, à plusieurs reprises, utilise cette formule, il vous a été dit, ou il a été dit aux anciens, hein, il a été dit aux anciens, ceci, 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 et moi, je vous dis. Il a été dit, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, etc. Alors, c'est une expression extrêmement forte, puisque l'autorité de Jésus, ici, se manifeste comme la parole de quelqu'un qui n'est pas simplement dans la lignée des prophètes, et qui n'est pas simplement dans la lignée de Moïse, mais qui, d'une certaine manière, apparaît comme la voix même de Dieu, la voix VOX de Dieu, la voix de Dieu. Walter Kasper parle de Jésus se considérant comme la bouche de Dieu, comme la voix de Dieu. Attention, il ne faut pas se méprendre. Hein. Jésus de lui-même ne cherchait pas à se mettre en avant, bien évidemment. Hein. Mais la façon dont il parlait, la façon dont il se situait par rapport au décalogue lui-même, par rapport au sabbat en particulier, révélait implicitement qu'il était au-dessus de Moïse. Voilà. C'est à ce niveau-là qu'on peut parler d'une sorte de, déjà d'une christologie implicite ou indirecte. Il y a une autre expression de l'autorité de Jésus qui révèle également, dès avant Pâques, que Jésus est quelqu'un d'incomparable dans son humanité même. C'est que Jésus apparaît comme liant la décision pour ou contre le royaume à une décision pour ou contre sa propre personne. Voilà. Je dis cela en pensant par exemple à ce qu'on lit dans l'évangile de Marc au chapitre 8, verset 38, Marc 8, 38, « Celui qui aura rougi de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, rougira de lui. » On voit bien que la position qui est adoptée par rapport à Jésus, par rapport à la personne même de Jésus, implique une position par rapport à Dieu même, finalement, par rapport au royaume de Dieu. Walter Kasper, je le cite beaucoup aujourd'hui, parce que c'est l'un des théologiens qui ont, je crois, le mieux approfondi cette idée d'une christologie implicite ou indirecte dès avant Pâques, dans son bel ouvrage « Jésus le Christ ». Kasper écrit ceci, « La décision eschatologique, c'est-à-dire la décision ultime, si vous voulez, la décision qui engage le sens profond de l'existence, la décision eschatologique est à prendre en face de la manifestation et la prédication de Jésus, on se décide à son sujet vis-à-vis de Dieu. » Et Ce n'est évidemment pas Jésus qui dit, jamais Jésus ne dit « je suis Dieu ». Jamais il ne dit, dans les évangiles synoptiques, jamais il ne dit « je suis le Fils de Dieu ». Jamais. Mais en pratique, du fait même des paroles qu'il adresse à ses disciples, on voit bien que la position qui est attendue de ses disciples par rapport à lui est une position qui engage le sens ultime de l'existence par rapport à Dieu même. Alors cela est particulièrement net dans le cas des disciples, de l'appel des disciples. Lorsque Jésus leur dit « Venez à ma suite », ça se présente comme une sorte, comme un commandement, « Venez à ma suite ». Et dans l'évangile de Marc, Jésus ajoute « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Je ferai de vous. Le mot est très fort, c'est une nouvelle création. Voilà. Et les disciples qui sont ainsi appelés, d'après les évangiles, les disciples qui sont ainsi appelés doivent tout quitter pour suivre Jésus. Ça aussi, c'est très fort, si on place ces formules dans le contexte de la Palestine à l'époque de Jésus. Parce que, à l'époque de Jésus, il y a, bien sûr, beaucoup de rabbis avaient des disciples. Mais les disciples suivaient leur maître, ils suivaient leur rabbi, jusqu'au jour où ils seraient eux-mêmes des maîtres. Tandis que les disciples de Jésus sont appelés à être avec Jésus, comme dit l'évangile de Marc, à participer à son autorité, à son exousia, par la prédication et par l'action. Ce ne sont pas des hommes qui sont simplement appelés à transmettre l'enseignement du maître. Ce sont des hommes qui sont appelés à être vraiment avec Jésus dans l'exercice de sa prédication et dans la mission. Il y a donc un engagement radical qui est attendu de la part des disciples, et cet engagement radical à la suite de Jésus équivaut pratiquement à une confession de foi vis-à-vis de Jésus. Ça ne se formule pas de manière doctrinale, mais lorsque les disciples quittent leur barque et décident sans condition de répondre positivement à l'appel de Jésus, ça équivaut en pratique à une confession de foi. Ils n'auraient quand même pas suivi le premier venu. On peut le penser, en tout cas. Là, ils suivent Jésus sans condition. Donc il y a une attitude pratique de la part de Jésus qui revient, en fait, à l'équivalent d'une sorte de confession de foi en Jésus. Même si cette confession de foi ne se formule pas de manière doctrinale, comme on dira par la suite. En tout cas, pas encore. Elle se formulera quand même, désormais pas. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de parler de la confession de Césarée. Mais, point de départ, lorsque les pêcheurs sont appelés par Jésus, au bord du lac de Tibériade, on a simplement la réponse pratique à l'appel de Jésus, mais une réponse qui, encore une fois, implique la reconnaissance de Jésus comme de quelqu'un qui est un homme, certes, mais qui, dans son humanité, est absolument incomparable à tout autre. Alors, nous verrons après la pause qu'il y a d'autres expressions de cette autorité de Jésus, d'après les évangiles, et que ces autres expressions sont également très, très révélatrices, au moins indirectement, de son identité profonde. Sur ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a éventuellement des questions déjà, ou... Pagola. Oui, ben, il dit ça, je crois, si je me souviens bien, il dit ça à propos de l'explication de la parabole du semeur dans l'évangile de Matthieu, puisque dans l'évangile de Matthieu, on a pas seulement la parabole du semeur, mais on a ensuite les disciples qui demandent, ils disent, on ne comprend pas, explique-nous. Alors Jésus leur explique. Et on pense en effet, je crois que Pagola a raison de le dire, que ce texte, l'explication de la parabole, porte la marque des catéchèses développées par les disciples ou les apôtres après Pâques. Mais ça ne met pas en cause le fait que les paraboles elles-mêmes, telles que les racontait Jésus, étaient porteuses d'une signification cachée, que Jésus, certainement, a pour une part explicité auprès de ses disciples, mais peut-être pas complètement dans les termes où, les rapports, où le rapporte l'évangile de Matthieu dans la fameuse explication de la parabole du semeur. Oui. Jésus parle du jugement dans sa prédication. On a des indices de cela. Il y a la fameuse parabole du jugement. Enfin, hein, vous savez, la parabole en Matthieu 25, hein, dont Jésus parle aussi du jugement. Mais ce qui est caractéristique, c'est que ce qui est premier dans la prédication de Jésus, ce n'est pas d'abord de mettre en avant l'imminence du jugement. Ce qui est premier dans la prédication de Jésus, c'est la bonne nouvelle de la proximité du royaume, le royaume s'est approché, le royaume est parmi vous. C'est ça qui est premier. Et on voit bien la différence par rapport à l'accent qui était celui de la prédication de Jean-Baptiste. Une autre question, je crois. Oui, vous avez dit que j'ai... Oui. Donc ça revient un petit peu. Merci, vous anticipez très très bien sur ce que je dirai après la pause. Mais ça ne revient pas tout à fait au même, parce que c'est une chose de dire, ben je le dirai tout à l'heure, mais c'était, on comprend que Jésus n'ait pas voulu de lui-même dire « je suis le Fils de Dieu ». Mais ça n'empêche pas que la révélation ait pu être donnée de sa filiation divine. Je reviendrai sur ce point qui est tout à fait important, sur la conscience que Jésus avait de lui-même. Oui. Alors oui, c'est ce que je disais au début. Il y a nécessairement, enfin, aucun récit évangélique ne nous parvient, je dirais, à l'état brut, ou en tout cas aucun, je ne sais pas après tout. Mais enfin, disons, dans beaucoup de cas, les récits qui nous parviennent sont des récits qui sont nécessairement relus après coup et qui portent la marque de la foi de la communauté post-pascale. Mais dire cela ne met pas en cause le fait qu'il y avait bien, de fait, au point de départ, cette histoire de Jésus et ces paroles de Jésus. On ne peut pas dans tous les cas remonter, bien sûr, on ne peut pas dans tous les cas, tant s'en faut, être sûr de l'historicité exacte, l'authenticité exacte de telle parole de Jésus. Mais, comment dire, autant il faut en effet affirmer que les paroles de Jésus et le récit de ses actions est relu et porte la marque de cette relecture post-pascale, autant il faut aussi, en sens inverse, dire que, à partir de ces relectures post-pascales, nous sommes renvoyés à l'événement originel, à la révélation originelle de Jésus dans ses paroles et dans ses actes. Ça joue dans les deux sens. Voilà, on va maintenant faire la pause et puis on poursuivra après. Voilà, nous allons reprendre. Donc, nous essayons toujours d'identifier des traits de cette autorité de Jésus qui sont comme autant d'indices implicites ou indirects de son identité profonde. Alors, il y a un troisième trait qui peut être relevé. C'est la relation de Jésus avec les pécheurs. La relation de Jésus avec les publicains et les pécheurs. Voilà. C'est l'un des points sur lesquels on voit le plus directement la différence considérable par rapport à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui reste au bord du Jourdain, son ministère de Baptiste, Jésus, lui, ne se contente pas d'annoncer l'invitation, de préconiser l'invitation au repentir. Il ne se contente pas non plus d'annoncer la proximité du règne de Dieu, mais il réalise lui-même, il accomplit lui-même le message de cette venue du royaume, notamment par sa façon de s'adresser aux publicains et aux pécheurs, par sa façon de prendre des repas avec eux. Il suffit de voir les évangiles pour réaliser à quel point ce comportement étonne et même souvent scandalise. Il prend le repas avec Lévi, collecteur d'impôts, il descend chez un publicain, un pécheur comme Zachée, etc. Cela lui est justement reproché. La relation de Jésus avec les publicains et les pécheurs manifeste une rupture par rapport au comportement qui, normalement, est attendu. Et surtout, Jésus va jusqu'à accorder lui-même le pardon. Il va lui-même jusqu'à accorder le pardon. Or, ce geste du pardon est perçu comme étant normalement réservé à Dieu. On a de cela un indice très remarquable dans l'épisode de la guérison du paralytique, au chapitre 2 de l'évangile de Marc, quand Jésus dit au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » et que les scribes interviennent en disant « Il blasphème, qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?» Voilà. Donc c'est très révélateur, parce que ça signifie que Jésus, en prononçant cette parole « Tes péchés sont pardonnés », est perçu comme accomplissant quelque chose qui normalement revient à Dieu. On a un exemple évident de ce que les théologiens contemporains appellent la christologie indirecte. Voilà. Casper écrit ceci, « Le comportement de Jésus envers les pécheurs implique donc une prétention christologique inouïe. » Alors, moi, je n'aime pas cette expression, « prétention christologique inouïe », parce qu'on a l'impression que Jésus prétend se met en avant. Mais ce n'est pas ce que veut dire Casper. Ce qu'il veut dire, c'est que, de fait, le comportement de Jésus envers les pécheurs et la parole du pardon qu'il prononce révèle en Jésus quelqu'un qui est du côté de Dieu. Il est pleinement homme, mais dans son humanité même, il se révèle comme posant les gestes ou les actes qui sont ceux de Dieu même. Voilà. En lui, en Jésus, et par lui, se manifeste l'amour, la miséricorde, le pardon de Dieu même. C'est dans ce sens, donc, qu'on est autorisé à parler de christologie cachée ou de christologie implicite. Avant même l'événement de Pâques. Et puis, il y a enfin une dernière expression, c'est non la moindre, de cette autorité de Jésus, c'est ce que les évangiles appellent les œuvres de puissance. En grec, c'est dynameis. Le mot qui est habituellement employé, c'est celui-là, dynameis, les œuvres de puissance. Voilà. En français, en général, on dit les miracles. Le mot qui est employé dans le Nouveau Testament, c'est celui-là. Parfois, le mot terata, en grec terata, qui veut dire les prodiges, on trouve aussi parfois dans les sources de l'ordinaire. Le mot le plus fréquemment employé, c'est celui-là, les dynamis, les œuvres de puissance de Jésus. Alors, dans l'évangile de Jean, il y aura un mot qui sera privilégié pour rendre clair, c'est le mot séméant, que l'on traduit par les signes. On trouve ça aussi déjà dans les évangiles synoptiques, mais Jean privilégie particulièrement ce vocabulaire des signes, hein, le signe de Cana, le signe de la guérison, de l'aveugle-né, etc. Alors, il faut bien sûr en dire un mot, parce que ces œuvres qui tranchent avec le cours normal des choses, hein, ces œuvres extraordinaires, ces œuvres de puissance, conduisent précisément à attirer l'attention sur l'identité de Jésus. Le moins qu'on puisse dire, même je dirais si on ne se situe pas d'abord dans une perspective de théologie chrétienne, mais d'un point de vue simplement extérieur, objectif, point de vue d'une histoire aussi neutre que possible, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus a été certainement perçu comme un thaumaturge et un exorciste. Voilà. Question n'est pas de savoir si les miracles, ce qu'on appelle les miracles, se sont passés exactement à la manière dont les évangiles les décrivent. Mais ce qui ressort clairement, massivement des évangiles, c'est premièrement l'importance de ces œuvres de puissance. Ça tient quand même beaucoup de place dans les évangiles, qu'on le veuille ou non. Et puis deuxièmement, le fait que Jésus a été perçu, au minimum, comme un thaumaturge, faiseur de miracles, si vous voulez, un faiseur de prodiges, et un exorciste, c'est-à-dire quelqu'un qui expulse ou qui chasse les démons. Vous direz, ça ne suffit pas à prouver qu'il soit le Christ ou le Fils de Dieu, surtout à l'époque de Jésus, parce qu'il y en avait d'autres, des thaumaturges, ou des gens qui se faisaient passer pour des thaumaturges ou pour des exorcistes. Mais le minimum qu'on puisse dire, c'est que Jésus certainement a été perçu ainsi. Alors, ce qu'on remarque en même temps sur la base des évangiles, c'est un certain nombre de traits tout à fait distinctifs. Le premier, c'est que même si Jésus a certainement accompli des œuvres qui ont été perçues comme des œuvres inhabituelles, extraordinaires, rendre la santé à un malade, etc., Jésus refuse toujours d'utiliser le miracle pour sa propre gloire. Voilà. Jésus refuse d'utiliser le miracle pour sa propre gloire. On en a une indication très, très, très nette avec l'épisode des tentations au désert. On voit bien que Jésus refuse de se faire valoir à la faveur d'un acte de puissance auquel justement le tentateur le convierait. Le deuxième trait que l'on peut aussi recueillir, c'est que Jésus manifeste par rapport à ses œuvres de puissance une réserve, une retenue qui tranche beaucoup avec le comportement d'autres thaumaturges. Parce qu'on a gardé de la littérature de l'Antiquité, on a gardé des récits sur les prodiges effectués par un certain nombre de personnages aux alentours du 1er siècle. On a des récits de ce type. Mais souvent, ces récits, habituellement, ces récits, justement, mettent l'accent sur le côté tout à fait prodigieux de ce qui est ainsi accompli par ces hommes extraordinaires. Voilà. Or, dans les évangiles, ce n'est pas cela d'abord, ou seulement, qui est mis en évidence. On constate aussi la réserve ou la retenue de Jésus par rapport à ses miracles, par rapport à ses œuvres de puissance, plus largement, en particulier au sens où Jésus met en évidence l'importance de la foi. On remarque que souvent, pas toujours, mais souvent, les œuvres de puissance accomplies par Jésus adviennent là où existe une relation de confiance entre telle personne et Jésus lui-même. Bien plus, on a l'impression que dans un certain nombre de cas, Jésus accomplit une œuvre de puissance en réponse à la foi qui lui est manifestée. Pensons à toutes ces formules du type « ta foi t'a sauvé ». Ta foi t'a sauvé. Alors, il ne faut pas généraliser. Il y a des cas où Jésus accomplit des œuvres de puissance sans qu'on le lui ait explicitement demandé. Mais on voit bien que dans un certain nombre de cas, les œuvres de puissance adviennent là où il y a une relation profonde entre telle personne et Jésus lui-même. Pensons à l'hémorroïde, par exemple, qui touche la frange du vêtement de Jésus. Ça ne s'exprime pas forcément par une déclaration explicite de foi, mais il y a un geste de confiance fortement marqué, et la personne retrouve la santé. Et puis, parfois, dans certains cas, c'est tout à fait explicite. La contre-preuve, d'ailleurs, c'est que nous apprenons, à la faveur de tel ou tel passage des évangiles, que dans certaines situations, Jésus ne pouvait pas faire de miracles à cause de leur manque de foi. Ça va jusque-là. Il y a des situations dans lesquelles le manque de confiance ou le manque de foi fait que Jésus se retient d'accomplir une œuvre de puissance, un miracle. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui frappe beaucoup, hein, si on compare les récits évangéliques avec un nombre de récits qui existaient dans la littérature antique sur des thaumaturges ou des exorcistes. Voilà. Alors, on peut dire, c'est ma troisième remarque à propos de ces œuvres de puissance, on peut dire que le sens profond de ces œuvres de puissance dans les évangiles, c'est vraiment de manifester la cohérence entre la parole de Jésus et ses actes. Et ici, je rejoins tout à fait le texte de Vatican II que je lisais tout à l'heure. L'économie de la révélation s'effectue par des actions et des paroles intrinsèquement liées entre elles, de sorte que les œuvres accomplies par Dieu manifestent et confirment la doctrine et les réalités signifiées par les paroles, tandis que les paroles proclament les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. Voilà. Jésus ne fait pas que parler. Jésus ne fait pas qu'enseigner. Jésus ne fait pas que proclamer la venue du règne de Dieu. Mais il pose déjà des actes, il accomplit déjà des œuvres qui sont cohérentes avec son message. Voilà. Puisque fait partie de la bonne nouvelle du règne de Dieu que les malades retrouvent la santé, par exemple, eh bien, telle personne qui est atteinte dans son corps retrouve effectivement la santé en présence de Jésus, moyennant le plus souvent une relation de foi, de confiance élémentaire entre Jésus et entre la personne malade et Jésus lui-même. Voilà. Donc c'est ça ce sens profond des œuvres de puissance accomplies par Jésus, manifester la cohérence entre l'action de Jésus et sa parole, entre l'action de Jésus et sa prédication, et cela dans le sens précisément en parfaite cohérence avec le message de la proximité du règne de Dieu. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire, en conclusion de cette section, si vous voulez, que les œuvres de puissance accomplies par Jésus contribuent elles aussi à leur manière, et non pas de façon secondaire, mais de façon tout à fait centrale, à signifier, dès avant Pâques, l'identité profonde de Jésus de Nazareth. Pourquoi ? Eh bien parce que d'un côté, je raisonne ici un petit peu de façon analogue à la manière dont je raisonnais à propos des paraboles. D'un côté, ces œuvres de puissance sont accomplis par quelqu'un qui est perçu comme un homme. Quand on voit Jésus dire au paralytique « Lève-toi, marche », quand on voit Jésus dire à un autre malade « Je le veux, sois guéri », etc., on voit un être humain. On voit un être humain. Donc, d'un premier point de vue, les œuvres de puissance sont bien perçu comme accompli par un homme. Mais, second point de vue, c'est un homme qui précisément accomplit ce qui, normalement, passe le pouvoir de l'homme. C'est un homme que l'on voit accomplir ce qui, normalement, ne peut revenir qu'à Dieu. Soit de redonner la santé dans une situation où ça paraît humainement impossible, pour ne pas parler du retour à la vie de Lazare, soit de poser l'acte du pardon, qui est compris comme un acte relevant normalement de Dieu même. Donc, cet homme, Jésus de Nazareth, que l'on voit parler comme un homme, que l'on voit vivre comme un homme, est en même temps quelqu'un qui apparaît comme étant dans une relation toute spéciale, dans une relation unique avec celui qui est à la source de tout bien, y compris à la source du don de la vie et de la santé. Voilà, c'est par ce biais, si vous voulez, que ces œuvres de puissance accomplies par Jésus sont révélatrices, indirectement au moins, de son identité. Du moins pour ceux qui veulent bien les entendre ainsi. Parce que, en présence des mêmes œuvres de puissance, ou en présence des paroles de pardon prononcées par Jésus, eh bien, il y en a beaucoup qui disent « c'est par Belzéboul qui fait cela », ou « il est possédé par un esprit impur », etc. Ça ne s'impose pas. Ça ne s'impose pas. Mais il est possible, à qui le veut bien, de lire ou d'entendre à travers ces œuvres de puissance que Jésus avait d'une certaine façon en commun avec d'autres thaumaturges de son époque, il est possible de lire ou d'entendre à travers cela l'expression, la révélation indirecte de son identité profonde, l'identité de quelqu'un qui est pleinement homme, mais qui, dans son humanité même, vient de Dieu et du côté de Dieu. Voilà. Alors, ça va là-dessus? Si ça va, on va passer. Alors, on va essayer de franchir une dernière étape qui est peut-être plus délicate. Hein, consiste à se demander quelle conscience Jésus a-t-il pu avoir de sa propre identité? Parce que si vous voulez, jusqu'ici, j'ai essayé de dire comment des hommes et des femmes contemporains de Jésus pouvaient, dès avant Pâques, reconnaître à travers certaines de ses paroles ou de certains de ses actes les signes de son identité profonde. Voilà. Est-il possible d'aller plus loin et de se demander ce que l'on peut dire de la conscience que Jésus lui-même avait de sa propre identité? Bon. Question délicate parce qu'on a peur... Si on y répond trop vite, on ne risque pas de manquer de respect par rapport à quelque chose qui est l'ordre du mystère, qui nous échappe. En même temps, on ne s'est pas privé dans l'histoire pour dire des choses à ce sujet. Donc, il faut bien essayer de se prendre position par rapport à cette question. Oui, cette question de la conscience que Jésus avait de sa propre identité a donné lieu à beaucoup de prises de position dans les siècles anciens. Dans des sens d'ailleurs assez contrastés. Au VIe siècle, il y a des chrétiens de bonne foi qui raisonnaient ainsi, puisque Jésus était vraiment homme, pleinement homme, et que son humanité n'était pas du tout absorbée, éclipsée par sa divinité, eh bien, sans doute, il ignorait beaucoup de choses. Il ignorait beaucoup de choses. D'ailleurs, disait-il, à juste titre, dans l'évangile de Marc, il est bien dit que Jésus lui-même ignore, par exemple, l'heure de la fin. Voilà. Mais ces gens-là, ces chrétiens du VIe siècle, allaient plus loin. Ils disaient que, vraiment, Jésus, du fait même de sa condition humaine assumée jusqu'au bout, ignorait beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ces chrétiens, leurs adversaires leur donnaient un nom, ils les appelaient les agnoètes. Adversaires qui les appelaient agnoètes, ça vient d'un mot grec qui veut dire ne pas savoir, agnosko. Donc les agnoètes, c'était ceux qui affirmaient que Jésus ignorait beaucoup de choses, du fait même de son humanité assumée jusqu'au bout. Alors, leurs adversaires leur disaient Vous dites que Jésus était très ignorant, mais en fait, c'est vous qui êtes ignorant, donc on vous appelle agnoète. Ouais. Comme ça que ça. Du polémique, si vous voulez, c'est comme ça que les choses se sont passées. Voilà. Et alors, en fait, ces gens-là, en effet, ils allaient trop loin. Parce que le problème, c'est que si on insiste trop radicalement sur l'ignorance de Jésus, eh bien, on risque d'oublier que Jésus est quand même révélé dans les évangiles comme le Fils de Dieu. Voilà. Et donc, la pensée de ces agnoètes a été refusée. Elle a été condamnée à l'époque. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, un certain nombre de chrétiens sont allés trop loin dans l'autre sens. De bons chrétiens, même des saints, comme Saint Jean Damascène, qui n'hésitait pas à dire au 8e siècle que Jésus était omniscient dès le sein maternel. Oui. Ça pose quand même un problème, vous reconnaîtrez. Hein. Mais oui, il prenait de sa manière le contre-pied de la position des agnoètes. Les auteurs médiévaux, les théologiens médiévaux se sont beaucoup arrêtés sur cette question. Qu'est-ce que Jésus pouvait connaître? Qu'est-ce qu'il ne connaissait pas? Voilà. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, on venait à poser toute une série de distinctions qui nous paraissent aujourd'hui peut-être un peu subtiles. Il distinguait, il disait, dans Jésus-Christ, il faut distinguer la science de vision, la science infuse et la science acquise. Voilà. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que Thomas d'Aquin, au fur et à mesure qu'il évolue dans sa vie, donne de plus en plus d'importance à la science acquise. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, de plus en plus, saint Thomas d'Aquin s'est aperçu que, puisque Jésus-Christ avait vraiment partagé notre humanité, il fallait bien reconnaître qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il ne connaissait pas au point de départ, mais qu'il avait dû acquérir, science acquise, au fur et à mesure de sa vie. Voilà. Enfin, disons que quand même, globalement, la théologie chrétienne, à l'époque médiévale et surtout à l'époque moderne, a plutôt péché dans le sens d'une insistance sur la science ou le savoir de Jésus plutôt que dans le sens opposé. Voilà. D'où la réaction d'un certain nombre de théologiens chrétiens au XXe siècle, comme Karl Rahner ou Hans Urson Balthasar. Karl Rahner, par exemple, Karl Rahner a dit, on ne peut pas affirmer que Jésus savait tout sous prétexte qu'il était le Fils de Dieu. Puisque on dit que le Fils de Dieu a assumé la nature humaine, il faut bien comprendre que Jésus, nécessairement, a acquis un certain nombre de choses au fur et à mesure de sa vie d'homme. D'ailleurs, c'est ce que l'évangile de Luc laisse entendre lorsqu'il dit que Jésus grandissait en taille, en âge, en force, en sagesse. Et finalement, Rahner résolvait la question en disant « Il faut reconnaître en Jésus-Christ une disposition ontologique fondamentale d'intimité avec Dieu. » Voilà. Mais pour le reste, il faut reconnaître que Jésus a progressé dans la conscience de sa propre identité. Finalement, Rahner essaye de trouver une sorte de compromis entre les deux écueils inverses. Hein. Il dit, puisque Jésus est confessé dans la foi comme le Fils de Dieu, il faut bien reconnaître en lui ce qu'il appelle une disposition ontologique fondamentale d'intimité avec Dieu. Voilà. Vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à préciser, mais enfin, au moins sur le principe, il faut bien quand même, quelque part, reconnaître que Jésus, dans son être profond, bénéficiait d'une intimité absolument radicale avec Dieu, son Père. Mais la pointe de la réflexion de Rahner, c'est de dire que, précisément, cette disposition ontologique fondamentale d'intimité avec Dieu n'empêchait pas, en Jésus, un progrès, une évolution, une croissance, et cela du fait même de son appartenance à la condition humaine. Alors, un autre théologien catholique, Hans Urson Balthasar, a raisonné dans la même perspective en disant « Certes, il faut absolument tenir la filiation divine de Jésus de Nazareth, Mais puisque le Fils de Dieu est devenu homme, puisqu'il a été pleinement homme, sa véritable humanité implique que Jésus ait progressé dans la conscience de son identité profonde. Je vous cite quelques lignes de Urson Balthazar. Si Jésus est un homme authentique, il faut encore que son œuvre s'accomplisse dans la finitude d'une vie d'homme, même si le contenu de cette œuvre et ses effets postérieurs débordent largement les limites imposées à cette finitude. Un homme ne peut pas dire « Je vais expédier cette partie de ma mission avant de mourir, et puisque je sais que je dois ressusciter, je puis laisser le reste en suspens pour l'achever plus tard. » Celui qui parlerait ainsi serait peut-être un esprit céleste venu faire un tour sur la terre, il ne serait assurément pas un homme chargé du poids de la finitude humaine et de sa dignité. Voilà. Donc on voit bien cette insistance des théologiens contemporains comme Raner ou Balthazar pour rééquilibrer la théologie, pour rééquilibrer la compréhension théologique de cette conscience que Jésus pouvait avoir de sa propre identité. Encore une fois, il ne s'agit pas de nier ce qu'il y a d'unique dans la constitution humano-divine, divino-humaine de la personne de Jésus. Il s'agit de reconnaître, comme le dit Raner, cette disposition intime d'intimité fondamentale avec Dieu, cette disposition ontologique fondamentale d'intimité avec Dieu, mais il s'agit de comprendre que dire cela n'empêche pas de faire droit à une légitime évolution, à une progression dans la conscience que Jésus pouvait avoir de sa propre identité. Mais aujourd'hui, quand nous réfléchissons, quand nous essayons de reprendre avec tout le respect qui s'impose, bien sûr, une réflexion sur la conscience que Jésus avait de sa propre identité, nous pouvons éviter de nous embarquer dans ces considérations relativement abstraites. Nous avons un chemin plus sûr, et c'est ce chemin que je vous propose d'explorer. C'est le chemin qui consiste à réfléchir sur les appellations mêmes de Jésus dans les évangiles. Ce qu'on appelle en langage technique les titres de Jésus dans les évangiles. J'ai oublié de dire que lorsque Urson Balthazar reconnaissait qu'il y avait réellement une évolution de Jésus en tant qu'homme, il n'hésitait pas à dire qu'il fallait même reconnaître à Jésus une foi. Enfin, Jésus avait foi en Dieu, Père. Voilà. Mais je reviens donc à mon propos central, si vous voulez. Aujourd'hui, plutôt que de nous embarquer dans des spéculations finalement très abstraites, nous avons un chemin plus sûr, qui est de nous demander, sur la base même des appellations de Jésus dans les évangiles, quelle conscience il pouvait en effet avoir de lui-même. Alors essayons de faire ce parcours. Je vais peut-être commencer par ce qui est peut-être le plus lointain, si vous voulez, par rapport à la question de l'identité profonde de Jésus, et puis je terminerai par les appellations les plus importantes pour notre propos. Il y a une première appellation à laquelle on peut penser, c'est l'appellation de prophète. Voilà. Est-ce que Jésus s'est considéré comme prophète? Mais on doit pouvoir dire des choses là-dessus, sur la base des évangiles, sans avoir besoin de s'embarquer dans des considérations très très abstraites sur la conscience que Jésus avait de lui-même. Donc Jésus s'est-il, oui ou non, perçu comme prophète? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, d'après les évangiles, jamais il ne s'est donné à lui-même directement le titre de prophète. Jamais dans les évangiles, vous n'entendez Jésus dire « Je suis un prophète ». Jamais. Par contre, il y a des formulations indirectes. Pensons par exemple à la parole de Jésus dans l'évangile de Luc, après l'épisode de la prédication à la synagogue de Nazareth. Un prophète n'est jamais accueilli dans sa propre maison. Et c'est indirect. Jésus ne dit pas « je suis prophète », mais indirectement, il laisse bien entendre qu'il se perçoit lui-même comme prophète, en l'occurrence comme prophète incompris. On pourrait aussi citer d'autres cas dans l'Évangile. Je pense au chapitre 23 de l'Évangile de Matthieu. Là encore, enfin, Jésus ne parle jamais de lui comme prophète, hein, mais il fait allusion au tombeau des prophètes, les sépulcres des prophètes qui ont été assassinés. Il est difficile de penser qu'il ne pense pas à lui quand il dit cela. Il est difficile de penser qu'il ne pense pas à ce que risque d'être sa propre destinée de prophète incompris et persécuté et finalement mis à mort. Selon l'historien John Mayer, dont j'avais parlé tout à fait au début du cours, nous pouvons être certains, d'après les évangiles, que Jésus a consciemment imité le rôle du prophète Élie. C'est une grande figure de l'histoire d'Israël. Élie qui était attendu pour restaurer Israël et pour préparer Israël à la venue de son Dieu. Jésus, c'est vraiment une conclusion très ferme à laquelle Meyer aboutit au terme de son travail d'historien. Jésus avait certainement l'intention de se présenter comme prophète de la fin des temps à la manière d'Élie. En tout cas, même si on ne partage pas cette conclusion de Meyer, bon, je pense qu'elle est fondée pour ma part, du point de vue historique, mais même si on ne partage pas cette conclusion de Meyer, sur la base même des évangiles, à travers les quelques citations que j'ai données, on peut se convaincre que Jésus s'est perçu comme étant au moins un prophète, et même un prophète incompris. Voilà. À partir de quand? Impossible de le dire. Rien ne permet de le dire. À partir de quel âge? On ne peut pas dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins dans les années de son ministère public, il avait cette conscience-là. Et que cette conscience d'être un prophète incompris a dû même s'accentuer au fur et à mesure qu'il était en butte à l'hostilité des pharisiens, des scribes, etc. Bon, c'est déjà une première conclusion intéressante. Ben, évidemment, prophète, il y a eu beaucoup d'autres prophètes. Hein. Prophète, ça ne suffit pas à dire Christ ou Fils de Dieu. C'est pourquoi il faut aller plus loin dans notre enquête. Deuxième appellation à laquelle on peut penser, je m'arrête ici essentiellement sur des appellations que l'on peut induire des évangiles synoptiques. Hein. Je ne prends pas en considération le cas de l'évangile de Jean, parce que comme vous savez, l'évangile de Jean est plus tardif, et il introduit d'autres appellations du Christ, il les met parfois sur les lèvres du Christ lui-même, mais dans bien des cas, on peut se dire que ce sont des appellations qui ont été projetées après coup, à la lumière de l'événement pascal. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'identifier les appellations qui ont pu être données à propos de Jésus, ou que Jésus a pu s'octroyer lui-même, avant Pâques, c'est ça mon propos. Donc nous avons vu ce qu'il en est pour l'appellation prophète. Deuxième appellation à laquelle on peut penser, c'est l'appellation fils de David. Dans l'évangile, dans les évangiles synoptiques, cette expression vient parfois. Elle vient par exemple dans l'évangile de Marc au chapitre 10, dans l'épisode de l'aveugle de Jéricho. La guérison de l'aveugle de Jéricho, qui s'adresse à Jésus en lui disant « fils de David ». Voilà. Il n'y a aucune raison de mettre en doute l'historicité de cet épisode. Et donc le fait même de se voir appeler « fils de David » pouvait donner à Jésus le sentiment, la conviction qu'effectivement il était fils de David. Et peut-être que Jésus avait déjà cette conviction avant que l'aveugle de Jéricho prononce ses paroles, bien évidemment. Il y a un passage qui est encore plus important, c'est toujours dans l'évangile de Marc au chapitre 12, un épisode difficile à interpréter. Jésus attire l'attention sur un paradoxe. Le Christ, le Messie, disent les scribes, est fils de David. Or, David n'appelle pas le Christ son fils, mais son Seigneur. Comment le Christ peut-il être à la fois fils de David et Seigneur? Il n'y a pas de réponse. C'est intéressant de constater que Jésus pose la question. Et pourquoi pose-t-il la question? Sinon parce que, implicitement, il se reconnaît lui-même comme fils de David. Ce passage est une grande portée christologique, mais de façon indirecte, là encore. On comprend en creux que, pour répondre à la question ainsi posée par Jésus, cette sorte de colle théologique, si je peux dire, posée par Jésus, eh bien, le scribe devrait reconnaître que celui qui est né de David est en réalité le Seigneur. Il s'agirait de reconnaître que le fils de David est inséparablement le fils de Dieu, du côté de Dieu. Mais on ne peut pas en dire plus sur la base de ces quelques occurrences. Ce que je voudrais surtout mettre en évidence, c'est l'importance de trois titres dans les synoptiques, les titres Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme. Avec ces trois appellations, alors, nous avons un accès remarquable à la christologie proprement dite. Et nous pouvons avoir une bonne perception, autant qu'il est possible, de la façon dont Jésus pouvait avoir conscience de sa propre identité. Alors, je commence par les deux premières appellations, Christ et Fils de Dieu, en attirant l'attention sur le prologue de l'évangile de Marc, parce qu'il n'y a pas seulement le prologue de l'évangile de Jean, il y a aussi le prologue de l'évangile de Marc, mais qui est beaucoup plus court, puisqu'il tient simplement quelques mots. Marc 1, 1, commencement de la bonne nouvelle touchant Jésus, Christ, Fils de Dieu. Dans ce prologue de l'évangile de Marc, il y a un nom, je veux dire un nom propre, plus deux appellations. Le nom propre, attention, ce n'est pas Jésus-Christ. Le nom propre, c'est Jésus. Les deux appellations, c'est Christ et Fils de Dieu. Alors, regardons successivement chacune de ces deux appellations. D'abord, la première appellation, Christ, Christos, mot grec qui traduit l'hébreu Messia, Messie, Christ. Cette appellation, comme vous le savez, elle est donnée à Jésus lors d'un épisode majeur de l'Évangile, ce qu'on appelle la confession de Césarée, en Marc 8, 29, ou alors en Matthieu 16, hein, où également il y a le parallèle en Luc, où Simon donc dit à Jésus, en réponse à la question de Jésus, « Qui suis-je? Qui dites-vous que je suis ?» Et Simon répond, « Tu es le Messie, tu es le Christ. » Voilà. Et d'autre part, le titre reviendra plus loin dans le même évangile de Marc, en particulier pendant la Passion, en réponse à la question du grand prêtre, « Es-tu le Christ ?» Et Jésus répond, « Je le suis. » Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que lors de la première occurrence, dans le cadre de la confession de Césarée, lorsque Simon dit à Jésus « Tu es le Messie, tu es le Christ », Jésus ne renchérit pas sur cette appellation, mais s'empresse d'ajouter « Le Fils de l'homme doit être crucifié et il ressuscitera le troisième jour ». Autrement dit, Jésus ne ratifie pas ouvertement cette appellation « Christ » dans l'évangile de Marc. L'évangile de Matthieu, c'est un peu différent, puisqu'il dit « Heureux es-tu, Simon, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, etc. » Par contre, on constate que dans l'épisode de la Passion, lorsque le grand prêtre pose à Jésus la question « Es-tu le Christ ?», à ce moment-là, Jésus n'hésite plus à répondre ouvertement « Je le suis ». Marc 14, 62. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cela? Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'au moment où Simon disait « Tu es le Messie, tu es le Christ », il y avait une ambiguïté, une grande ambiguïté encore. Certainement, il ne faut pas dire du mal de Simon, il disait quelque chose d'important en disant « Tu es le Christ », mais il n'avait pas vraiment conscience de ce que ça signifiait. Et pour lui, dire à Jésus « Tu es le Christ », ça n'impliquait certainement pas le chemin ultérieur du passage par la passion et la mort. Et c'est pourquoi Jésus, percevant cette ambiguïté, s'empresse de dire le Fils de l'homme va connaître la passion et la mort. Il ne ratifie pas, Jésus évite de ratifier immédiatement l'expression « tu es le Christ » au sens où Simon risque de la comprendre à ce moment-là. Par contre, au moment de la passion, là, il n'y a plus d'ambiguïté. Et pour cause, puisque Jésus est en train de comparaître devant le grand prêtre. Et donc, à ce moment-là, lorsque le grand prêtre lui dit « es-tu le Christ ?», Jésus peut en effet ouvertement dire « je le suis ». En tout cas, sur la base de ces textes, on peut vraiment parvenir à cette conclusion que dès avant Pâques, en effet, Jésus, à partir d'un certain moment, on ne sait pas quand bien sûr, c'est le mystère de la conscience de Jésus, que Jésus s'est lui-même, non seulement a été perçu, mais s'est perçu lui-même comme étant le Messie, le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, se percevoir comme le Messie, le Christ? Eh bien, comme nous savons, Messie ou Christ, c'est un mot, un titre, qui s'enracinait dans la tradition d'Israël. Le Messie, l'annonce du Messie qui devait venir. Donc, lorsque Jésus demande à Simon « Qui suis-je ?»« Qui dit-on que je suis ?»« Qui dites-vous que je suis ?» Simon puise en quelque sorte dans la tradition qui est la sienne, c'est-à-dire la tradition d'Israël, un nom extrêmement fort et il l'applique à Jésus. Alors, je remarque au passage que puiser dans la tradition d'Israël cette appellation Christ, ça n'implique pas nécessairement que Jésus soit reconnu comme fils de Dieu. Parce que bon, le Messie, hein, que devait être le Messie selon la tradition d'Israël? Bon, le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est lui-même fils de Dieu? Pas nécessairement. Ça peut être le cas, mais pas nécessairement. Donc, le terme Christ est un nom très important, mais qui ne suffit pas comme tel à dire l'identité divine du Fils de Dieu devenu chair. En tout cas, c'est important de reconnaître que dès avant Pâques, cette appellation a été certainement prononcée à propos de Jésus et que Jésus, du coup, que Jésus en tout cas se l'est approprié. L'autre appellation, Fils de Dieu, se distingue de l'appellation Christ au sens où elle n'est pas réservée à Israël, mais c'est une expression qui était aussi employée dans le monde grec et dans le monde romain. Le mot Messie ou Christ était un mot propre à la tradition d'Israël. L'expression Fils de Dieu, elle, est plus universelle. Or, précisément, nous remarquons que cette expression est mise sur les lèvres d'un païen, le centurion romain, dans l'évangile de Marc. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Alors, si nous revenons au prologue de l'évangile de Marc, hein, commencement de la bonne nouvelle touchant Jésus, Christ, fils de Dieu, voyons que c'est tout à fait extraordinaire, parce que ce prologue attire notre attention d'emblée sur le fait que Jésus, dès avant Pâques, sera reconnu comme Christ par les héritiers de la tradition d'Israël, avant tout Simon, et il sera reconnu en même temps comme fils de Dieu par un héritier des nations, le païen, le centurion romain. Donc nous avons quelque chose de l'universalité de Jésus de Nazareth qui est dite à travers cette complémentarité des appellations Christ et Fils de Dieu. Alors on pourrait objecter que Fils de Dieu, ce n'est pas une expression que Jésus emploie à propos de lui-même dans les évangiles synoptiques. Jamais Jésus ne dit « je suis le Fils de Dieu ». C'est votre remarque tout à l'heure. C'est vrai. Mais par contre, nous lisons dans les évangiles que Jésus s'adresse à Dieu en l'appelant Abba. Ce qui est un mot très fort, très très fort, qui implique une intimité extrêmement profonde entre Jésus et celui qu'il appelle ainsi son Père. Donc Jésus ne dit jamais « je suis le Fils de Dieu ». On comprend pourquoi, ça pourrait paraître quand même comme une prétention très très forte. Par contre, en pratique, il s'adresse bien à Dieu comme à son Père, et même de la façon la plus intime et la plus familière, en lui disant « Abba ». À quoi s'ajoutent deux épisodes majeurs que nous rapportent les évangiles synoptiques, à savoir l'épisode du baptême et l'épisode de la transfiguration. Dans l'épisode du baptême, retentit la voix « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ». Et dans l'épisode de la transfiguration, les apôtres entendent cette voix « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc jamais Jésus ne se présente de lui-même comme le Fils de Dieu, mais il est révélé comme le Fils. Et qui donc peut révéler Jésus comme le Fils, sinon le Père? Qui donc peut dire « Tu es mon Fils », sinon le Père? Il s'agit vraiment d'une révélation. Révélation. Et par cette voie, on comprend à la fois, si vous voulez, du fait, on rencontre à la fois du fait que Jésus ne s'affirme, ne se prétende jamais de lui-même le Fils de Dieu, et qu'en même temps, il a été perçu comme le Fils de Dieu. Alors, il reste à dire un mot d'une dernière expression, Fils de l'homme. Les expressions que j'évoquais jusqu'ici, Christ, Fils de Dieu, sont des expressions très importantes, je l'ai dit, mais finalement assez rares. Elles ne viennent qu'à quelques reprises dans les évangiles synoptiques. L'expression « fils de l'homme », elle, vient environ 80 fois dans les évangiles synoptiques. 80 fois. De plus, on la trouve sur les lèvres mêmes de Jésus. Alors je sais bien, un certain nombre d'exégètes disent avec raison que dans certains cas, c'est la communauté post-pascale qui a attribué après coup à Jésus des déclarations sur le Fils de l'homme. C'est vrai, mais les exégètes reconnaissent en même temps que dans un certain nombre de cas aussi, on peut être convaincu de l'authenticité de ces paroles de Jésus parlant du Fils de l'homme. Donc premièrement, un emploi massif de l'expression, autour de 80 fois. Deuxièmement, l'expression est mise sur les lèvres mêmes de Jésus. Troisièmement, cette expression « le Fils de l'homme » n'est pas employée comme attribut du point de vue grammatical, mais comme sujet. Vous voyez la différence avec Christ ou Fils de Dieu. Hein. Tu es le Christ. Hein. Grammaticalement, Christ est un attribut. De même, Fils de Dieu. Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Fils de Dieu est attribut de cet homme. Tandis que quand Jésus parle du Fils de l'homme, bien, quasiment toujours, le Fils de l'homme, du point de vue simplement grammatical, est en position de sujet. Le Fils de l'homme va connaître la passion, il souffrira, il sera mis à mort. Cette expression, le Fils de l'homme, est absolument fondamentale. Elle dit, à sa manière, l'identité de Jésus, du sujet Jésus, dans sa singularité. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le sens de cette expression. Hein. C'est une expression qui était arrivée pour le, déjà dans, on l'a rencontrée déjà dans des textes de l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Daniel, le Fils de l'homme venant dans la nuée. Mais l'expression est reprise par Jésus. Alors, elle est reprise curieusement à la troisième personne. Hein. Mais on comprend bien pourquoi, parce que Jésus ne peut pas dire simplement « je suis le Fils de l'homme ». Parce que le Fils de l'homme, l'expression connote en même temps l'eschatologie, si on se réfère à son occurrence dans le livre de Daniel. C'est pour ça que Jésus, à la fois, il laisse entendre qu'il est le Fils de l'homme, mais en même temps, il ne dit pas « je suis le Fils de l'homme », puisque le Fils de l'homme, ben, il ne sera pleinement révélé qu'à la fin des temps, qu'à la fin, en tout cas, qu'au dénouement, lorsque les temps sont pleinement accomplis. Donc avant tout dans la Pâque. L'expression « le Fils de l'homme » dit finalement l'identité de Jésus dans la tension même entre l'abaissement présent et la gloire future. Et on peut ajouter que, comme l'expression « le Fils de Dieu », mais peut-être plus encore, cette expression « le Fils de l'homme » a une connotation universelle. Parce que le Fils de l'homme, c'est une expression qui en vient à désigner finalement le sujet humain dans ce qu'il a d'universel. Finalement, l'enjeu de cette expression « le Fils de l'homme » peut être ainsi formulé. L'expression dit « l'humanité de Jésus en tant qu'elle est devenue constitutive de sa propre personne ». Il y a un concile au VIe siècle, le concile de Constantinople II, qui dit que le Verbe de Dieu a assumé la condition humaine, et pour exprimer cela de façon technique, il parle de la personne composée, ou l'hypostase composée du Verbe de Dieu. C'est-à-dire que le Verbe de Dieu a assumé, justement, il y a une composition qui est intervenue dans sa personne, c'est-à-dire jusqu'à l'incarnation, le Verbe de Dieu était seulement le Verbe de Dieu, et à partir de l'incarnation, le Verbe de Dieu est devenu le Verbe fait chair. Il y a eu composition de l'hypostase du Verbe et de la nature humaine assumée par le Verbe. Eh bien, on pourrait dire que cette formule technique de la christologie ultérieure est une traduction conceptuelle de ce que signifie l'expression « le Fils de l'homme » dans les évangiles synoptiques. L'humanité est devenue constitutive de la personne, de l'hypostase du Verbe. Voilà. Et c'est le sujet, vraiment. C'est-à-dire les titres comme « fils de David », « prophète », « même Christ », « même fils de Dieu » sont des attributs. Mais des attributs qui se réfèrent au sujet, et le sujet n'est autre que Jésus, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, dont la révélation n'est pas achevée, parce que justement l'histoire continue et que Jésus n'a pas encore connu sa passion et qu'il n'est pas encore ressuscité, mais l'expression « fils de l'homme » laisse déjà entendre justement la victoire sur la mort à travers la résurrection. L'expression « le fils de l'homme » dit tout cela à la fois. Et on pourrait dire finalement qu'à travers cette expression « le fils de l'homme » si importante dans les évangiles synoptiques, se dit l'identité de Jésus comme étant dans son humanité même, dans son sujet, l'humanité qu'il a assumée, il est dans cette humanité même, Christ et Fils de Dieu. Et c'est au fond à cela que nous renvoie le témoignage des évangiles, oui, en dehors même de toute considération abstraite sur la conscience que Jésus pouvait avoir de son identité. Déjà avant Pâques, il était possible à des hommes, à des femmes, de reconnaître Jésus comme Christ, comme Fils de Dieu, et aussi, leur était possible de l'entendre parler indirectement de lui comme du Fils de l'homme. Mais, Fils de l'homme, encore appelé, bien sûr, à connaître la passion avant la résurrection. Alors, ceci nous conduit, justement, mardi prochain, à voir... Donc, nous arrêter sur le moment de la passion et de la résurrection. Donc, je parlerai mardi prochain du mystère pascal, en essayant de demander, au fond, on essaiera de voir comment ce mystère pascal lui-même est révélateur de l'identité de Jésus-Christ comme vraiment homme et vraiment fils de Dieu.